Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Alain Braconnier, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est un plaisir de parler avec vous de ce nouveau livre qui paraît aux éditions Odile Jacob et dont vous êtes l'auteur. Alors, le titre, Les secrets de votre enfant. C'est un titre très clair et très intuitif qui nous indexe les secrets, les non-dits que nous savons abriter dans l'esprit de nos enfants. Donc, vous êtes médecin, psychiatre et psychanalyste, spécialiste de l'enfant et de l'adolescent. Vous avez écrit de nombreux livres et édité chez Odile Jacob souvent. Alors, je cite « Les bleus de l'âme »,« Le sexe des émotions »,« Mère et fils »,« Les filles et les pères », »,« Le meilleur thérapeute, c'est vous ». Alors, est-ce que vous pouvez déjà revenir sur ces titres qui m'ont interpellé, les bleus de l'âme, et puis ensuite le sexe des émotions. Qu'est-ce qu'on peut, de façon rapide, dire pour expliquer un peu ces titres ?
Bon, ces titres et les livres que j'ai écrits avec ces titres sont issus d'une vie professionnelle qui m'a amené à, en effet, comme vous l'avez dit, en tant que médecin, que psychiatre, que d'orientation psychanalytique, j'ai eu beaucoup de contacts avec des enfants, des adolescents, leurs parents, et aussi des adultes d'ailleurs, mais enfin là on parle des enfants et des adolescents et de leurs parents, qui m'ont amené à essayer de transmettre sous un angle compréhensible pour tous cette expérience. Les bleus de l'âme, bah, c'est parce que, en effet, quand on vient voir un psy, c'est parce que nous avons des soucis variés ou des problèmes ou des questions qui se posent et que aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'esprit que de l'âme, mais les bleus de l'âme, bah, c'était au fond qu'est-ce qui fait mal et qui montre que notre esprit, notre âme, garde un bleu, c'est-à-dire quelque chose qui ne se dissipe pas aussi facilement qu'on le voudrait. Mmh. Donc c'est ce qui m'a amené à écrire ce livre. Et puis ensuite, j'ai écrit, en effet, toujours dans le même esprit, à partir de ma pratique, la question des complémentarités entre les parents. Mère et fils, et les filles et les pères. Parce que il y avait d'abord beaucoup de livres sur mère et fille, et père et fils, mais je préférais, moi, voir combien il y avait aussi une quête de lien dans la complémentarité entre une mère et son fils, bien évidemment, et entre une fille et son père. Donc ça a été mère et fille, et les filles et les pères. Et puis ensuite, en effet, beaucoup plus récemment, j'ai écrit un livre auquel je crois vraiment, c'est que même notre métier amène nous à avoir comme objectif que chacun devienne son propre thérapeute. On peut avoir besoin de quelqu'un pour être aidé, parce qu'on sent qu'on a besoin d'être aidé. D'ailleurs, on n'est pas les seuls hein, qui peuvent être concernés par l'aide qu'on peut apporter à des personnes plus ou moins en difficulté. Et c'est vrai que les psychothérapeutes, aujourd'hui, on est les successeurs des chamans et de tous les tiers sociaux qui essayaient d'aider ceux qui avaient des difficultés dans les différentes sociétés connues jusqu'à maintenant. Et que dans notre société, c'est vrai que être psychothérapeute, c'est avoir un rôle social, bien sûr, mais aussi un rôle très centré sur l'écoute de chaque personne dans les difficultés qu'il peut rencontrer, de son intimité, des problèmes qu'il a, et d'essayer de le comprendre, de l'écouter. Écouter l'autre, c'est important. Et à partir de cette écoute, de comprendre ce qui peut évidemment le concerner et de lui faire comprendre ce qui peut-être plus inconsciemment, et c'est mon orientation psychanalytique qui m'amène à dire ça, être sous-jacent aux difficultés qu'il rencontre. Donc, voilà un petit peu la trajectoire. Alors aujourd'hui, j'ai écrit Les secrets de votre enfant parce que rencontrant beaucoup de parents avec leur enfant et adolescent, j'ai eu l'expérience d'être souvent étonné de voir que les enfants et les adolescents me disaient à moi, comme personne tierce au fond, comme personne qui n'était pas dans leur vie habituelle, me confier ce qu'on peut appeler des secrets, c'est-à-dire des choses qu'ils n'avaient pas osé dire ou pas pu dire à leurs parents, et conserver là, au fond, d'intermédiaire pour pouvoir, une fois de plus, aider les uns et les autres à avancer dans la vie.
Vous dites que nous pouvons être notre propre thérapeute et vous organisez aussi toute une réflexion pour dire que le parent peut être à l'écoute de son enfant et peut-être le guider. Alors ma question, c'est comment est-ce qu'un être non professionnel, comme moi par exemple, en psychologie ou en psychiatrie, peut en même temps guider un enfant en souffrance? Si le thérapeute guide l'enfant, le soigne, ou l'adolescent, il a ses connaissances, il a sa formation, il a son expérience. Donc il y a quand même une rampe qui fait que le thérapeute ne peut pas forcément commettre des impairs ou bien des erreurs. Mais n'importe qui, c'est-à-dire un papa, armé de son bon sens et d'un sentiment d'éthique, un sentiment, je dis bien, va essayer d'écouter son enfant et puis de le guider vers moins de souffrance. Est-ce que ça n'est pas un petit peu... Moi ça me pose question.
Oui. Alors, il faut dire aussi que j'ai une assez longue pratique professionnelle et que j'ai été confronté à différentes générations de parents et donc d'enfants qui étaient élevés par des parents qui, dans ce qui pouvait être par le passé une répétition au fond, parfois une trop grande répétition d'ailleurs. Les parents faisaient éduquer leur enfant comme ils avaient été eux-mêmes éduqués ou élevés, ou faisaient tout à fait le contraire parce qu'ils n'étaient pas du tout contents de la manière dont leurs parents les avaient élevés. Mais c'était relativement clair qu'il y avait là une relation parent-enfant qui était sous une forme, au fond, connue par transmission. Des parents ou des grands-parents aux parents et des parents à l'enfant. Et puis au fil des décennies, le monde a changé. C'est-à-dire que les parents sont devenus beaucoup moins prêts à se mouler au fond dans ce que leurs propres parents avaient fait. Ils avaient besoin de choses qui correspondaient à l'époque, au fil des années, des décennies, qui faisaient que l'écoute, l'attention à l'égard de l'enfant est devenue, à mon avis, moi, presque trop grande. C'est-à-dire, l'enfant est devenu, je caricature bien sûr, mais devenu un peu le roi de la famille, et les parents devenant un peu au service de l'enfant et non pas des adultes devant amener l'enfant à grandir. Il n'y a qu'à voir combien, au fond, à table, qui est un contexte familial évidemment connu de tous, eh bien, les enfants prennent la parole, on les écoute, on demande leur avis, on est évidemment content qu'ils puissent s'exprimer, mais on n'est plus dans une position où, au fond, vis-à-vis de l'enfant, on respecte à la fois son besoin d'être un enfant et de rester un enfant, et les enfants ont besoin d'avoir des secrets. C'est pour construire leur intimité, pour devenir des petits garçons, des petites filles en grandissant, qu'ils vont se sentir plus autonomes. On sait combien l'enfant, et c'est un peu de là dont je suis parti, adore jouer à cache-cache. Il aime se cacher, mais il aime en même temps être découvert. C'est-à-dire, le jeu de cache-cache est très intéressant à ce niveau-là. Il essaye de se cacher pour justement prendre de la distance, prendre son autonomie, être plus, provocateur un peu avec le parent. Et quand il se cache et qu'il n'est pas découvert, et ben paradoxalement, il est un peu angoissé. Et à ce moment-là, il se montre derrière l'arbre ou derrière la cachette pour que le parent le reconnaisse. Eh bien, ça, c'est la vie. C'est-à-dire que, au fond, on a besoin à la fois d'avoir une intimité, une vie, disons, secrète, ou en tout cas, que l'on garde intime en soi, sans pouvoir la transmettre ou la dire ou la révéler à tout le monde. Et en même temps, on a besoin d'avoir des confidents. Et le parent est quand même à plusieurs rôles, mais à un rôle de confident pour l'enfant. Alors, il ne faut pas en abuser. C'est-à-dire que, vous savez, les parents, ils ont... Alors ça, c'est par contre, à mon avis, assez identique depuis plusieurs générations de parents. Quand les enfants rentrent de l'école, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est une démarche d'intérêt, évidemment, du parent. Mais en même temps, c'est une réponse que va généralement avoir l'enfant. Rien, j'ai rien fait, ça va. Bon, ça l'agace. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a là une distance qui fait que le lien doit se modifier au fil du temps de telle façon que chacun trouve son individualité, sa personnalité, un peu d'avoir ses secrets, les parents ont des secrets, les enfants ont des secrets, et faire en sorte quand même que quand il y a des difficultés, eh bien, à ce moment-là, il est important que le parent soit à l'écoute de l'enfant, mais pas comme un inquisiteur, pas comme quelqu'un qui veut absolument savoir qu'est-ce qu'il a. Parce que le parent est angoissé quand un enfant a des difficultés. Il veut savoir ce qu'il a, c'est bien compréhensible. Mais pour savoir ce qu'il a, il faut aussi prendre son temps pour pouvoir relever ce défi, que le parent puisse lui révéler ce qui ne va pas, les secrets qu'il a, à l'école, avec un maître, avec des... j'ai des tas d'exemples avec d'autres gens de son âge. Et ça, c'est aussi bien le petit enfant que l'adolescent. C'est tout au long de l'enfance et de l'adolescence. Et là, c'est un peu ça que j'ai voulu un peu travailler de telle façon que les parents soient plus à l'aise avec cette question-là.
Alors, docteur Alain Braconnier, un parent a parfois l'impression, l'intuition, que penser de cette intuition, quelle est la valeur de cette intuition, que son enfant a très tôt une vie intérieure avec donc des non-dits et des secrets. Comment caractériser cette intuition ressentie par le parent et comment aussi distinguer un non-dit d'un secret? Et le secret, c'est quelque chose de sacré, ça fait partie de notre vie. Notre individualité, si mon moi réel, ou bien que je crois réel, est celui que je n'affiche pas comme un masque à tout le monde et à tout venant sur mon visage. Donc, le secret, les non-dits, quel est le hiatus entre les deux?
Alors, d'abord sur l'intuition. Moi, je pense que, en effet, nous sommes tous habités par des intuitions. dans la vie. Et qu'il ne s'agit pas de les rejeter, il s'agit plutôt de les interroger, de savoir qu'est-ce qui nous amène à avoir l'intuition, par exemple, que notre enfant ne va pas aussi bien qu'on aimerait qu'il aille, ou on a l'intuition que notre enfant passe un moment qui est différent de ce qui se passait antérieurement. Donc il y a quelque chose qui n'est pas dans une continuité du changement quand l'enfant grandit, bien sûr, mais qui fait que le parent est en difficulté. Et puis il y a des âges particuliers. Il y a, je parle de l'intuition là, il y a chez le jeune enfant cette fameuse période où le petit garçon, la petite fille s'éloigne du parent, court devant, puis tout d'un coup la peur revient. Donc les parents d'ailleurs, ils ne courent pas après l'enfant. Ils ont l'intuition qu'il y a quelque chose qui fait que l'enfant a besoin un peu de s'échapper et puis qu'il va revenir. Et puis quand évidemment ça dure, ils s'inquiètent. Et puis il y a une deuxième période caractéristique, c'est le moment de l'adolescence, où l'enfant devenant adolescent, évidemment, est dans un non-dit caractéristique, justement pour s'affirmer, non-dit allant jusqu'au secret. Il y a eu des études qu'on portait sur les repas de famille, je reviens sur les repas de famille, où on a vu, selon l'âge de l'adolescence, entre, disons, 10 et 14 ans, plutôt la première partie de l'adolescence, que les enfants, dans les repas de famille, ben, soit alors ils prenaient la parole aujourd'hui peut-être un peu trop, soit ils étaient dans un non-dit qui, et même pour en arriver à ne plus vouloir venir au repas de famille. Donc on voit bien là qu'il y a quelque chose qui se passe dans la rencontre et dans le lien qui a l'enfant entre l'enfant et les parents, qui évolue au fil du temps. Alors, la différence entre le non-dit et le secret, c'est comme vous l'avez dit d'ailleurs, le non-dit, il y a trois niveaux. Il y a les enfants qui sont plutôt des timides. Ils vont pas beaucoup parler, c'est le caractère. Il y a des enfants plus ou moins timides, ça a toujours été, il y en aura toujours. Et puis il y a des enfants, au contraire, très expansifs, parfois trop. Mais la timidité, c'est une chose qu'il faut reconnaître comme quelque chose qui n'est pas en soi, à condition qu'elle ne soit pas excessive, pathologique. Après, il y a les non-dits. Alors, les non-dits, c'est là où, en effet, le parent est assez en difficulté parce qu'il sent bien que l'enfant a des choses à dire et qu'il ne le dit pas. Prenons à l'adolescence ce non-dit, il est un peu normal. C'est dans l'esprit d'une autonomie. D'une liberté que, et puis un peu la provocation, que l'adolescent avec ses parents. Et puis il y a le secret. Alors là, le secret, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort, comme vous l'avez dit d'ailleurs. Quelque chose, au fond, une image du secret qui est très connue et que tous les parents d'adolescents, ou en tout cas la majorité, ont pu, aujourd'hui c'est un peu différent avec les réseaux sociaux, mais ont pu avoir, c'est le journal intime. Eh bien, l'adolescent avait un plaisir d'écrire son journal intime. Et il était très, très touché, vexé, en colère, si son parent voulait savoir ce qu'il y avait dans ce journal intime. Sauf que par moment, il laissait son journal intime sur son bureau, pour que quand même le parent puisse voir un petit peu de quoi il s'agissait. Donc vous voyez, tout ça, c'est un jeu. Il faut prendre ça comme un jeu. Un jeu relationnel, qui est un jeu qu'il faut savoir jouer, mais qu'il faut savoir jouer le mieux possible pour que chacun puisse trouver sa propre identité, identité de parent, identité d'enfant. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient plus compliqué. Je crois qu'aujourd'hui, être parent, c'est plus difficile qu'il y a 40 ou 50 ans. Parce qu'il n'y a pas ces repères, d'abord, qui existaient de façon répétée de génération en génération. Et puis ensuite, il y a un monde qui fait que les enfants ont leur propre contact avec le monde, par les réseaux sociaux, par les échanges qu'ils ont avec leurs amis. Et tout ce qui est aujourd'hui le monde actuel est un monde qui fait que les parents sont obligés de mettre des limites. Parce que, non pas seulement parce que, même si ça compte, l'enfant risque de devenir dépendant de ses de ces outils actuels, du téléphone, des réseaux sociaux, etc., avec les dangers que ça peut comporter, il y a ce qu'on appelle le contrôle parental. On a inventé le contrôle parental, on n'utilisait pas ce terme-là il y a 30 ans. Le contrôle parental sur les iPhones ou les appareils de téléphone, eh bien, c'est quelque chose qui limite, au fond, la possibilité que l'enfant a de communiquer trop avec l'extérieur et pas assez avec le parent. Donc, c'est pas facile d'être parent aujourd'hui, parce que d'abord, souvent les deux parents travaillent, ensuite, ils ont des problèmes entre eux qui sont peut-être plus compliqués que par le passé, et puis il y a justement cette possibilité, avec le côté évidemment liberté que ça donne, mais avec le côté évidemment de rupture de lien que ça peut susciter. Et c'est notre monde actuel, ça. Alors moi je dis toujours, tout a changé et rien n'a changé. C'est vrai que tout a changé pour beaucoup d'aspects, mais rien n'a changé. Je veux vous dire que quand un enfant est malheureux et maltraité à l'école, ou quand un adolescent a une rupture sentimentale, ben c'est le même enfant et le même adolescent que je vois aujourd'hui, que j'ai vu il y a 50 ans. C'est une souffrance humaine personnelle qui fait qu'il faut absolument, en effet, que le parent soit un parent attentif à ce qui brusquement donne l'impression que l'enfant ou l'adolescent n'est plus le même. Mais brusquement. Et que ça, c'est important pour les parents de dire, bon, là, il faut que j'intervienne, c'est mon rôle, c'est d'ailleurs la loi, et je dois le protéger face aux dangers qu'il pourrait cacher dans les difficultés qu'il rencontre.
Alors, docteur Alain Braconnier, que pouvez-vous nous dire de la fonction du secret dans l'élaboration d'une personnalité? Est-ce qu'il y a un rôle? C'est peut-être le ferment d'une personnalité qui s'affirme avec mon secret, avec ma possession personnelle de mon psychisme. J'ai des choses que je ne livre pas aux autres. C'est ma matière première. C'est d'ailleurs finalement là-dessus que travaillent les artistes, avec tous ces secrets, tous ces non-dits, tout ce qu'ils ont gardé et qui est matière à transformer, à transmuter. Quelle est la fonction du secret?
La fonction du secret, c'est de construire un moi privé. Un moi ou un soi, bon, on ne va pas rentrer dans les détails de vocabulaire, mais on a besoin, l'être humain a besoin, et je crois qu'il l'a toujours eu, même dans les sociétés très, très, très groupales, il a toujours eu besoin d'avoir un moi privé, d'avoir un moi qui fait que ce qui vit est quelque chose qui, pour une part, lui appartient et qu'il n'a pas vraiment envie que l'autre s'en saisisse. Que l'autre le comprenne, c'est bien, mais que l'autre s'en saisisse, il n'a pas envie. Et on est tous avec ce problème de construction de notre moi privé, qui fait que on a notre propre subjectivité, on a notre propre soi, comme on dit, ou notre propre moi, selon les références. Mais ça, c'est une nécessité. Et c'est une nécessité, justement, que le parent doit accepter quand il est trop curieux, trop désireux de tout savoir sur son enfant. Il fait une erreur parce que il ne tient pas en compte que lui-même, d'ailleurs, est probablement passé par les mêmes étapes et que l'enfant a besoin d'avoir cette construction de sa personnalité avec une partie qui est une partie qu'il ne communique pas aussi facilement que parfois les autres le voudraient.
Docteur Alain Braconnier, vous avez parlé donc de la nécessité, de l'intérêt du moins, d'avoir une vie privée aussi bien pour l'enfant, l'adolescent que pour l'adulte. Il y a des personnalités qui sont peu affirmées, des personnes timides. D'où provient la timidité? Est-ce que c'est une faible représentation de l'image de soi? cette image que l'on construit au fil des années, des décennies même, est-ce que le fait de ne pas savoir exactement qui on est soi-même, est-ce que ça peut être un mécanisme de stress, d'anxiété ? Comment travailler cette timidité ?
Oui, alors cette timidité, moi je dirais qu'elle est à comprendre comme un paradoxe. Ça ne veut pas du tout dire que l'enfant ne pense pas, que l'enfant n'est pas intelligent ou que l'enfant ne pourrait pas prendre la parole. Mais son rapport à l'autre est un rapport qui est un rapport plus inhibé, plus timide que d'autres enfants ou adolescents l'ont. C'est un trait de caractère qui, en effet, doit à la fois être respecté et à la fois être un tout petit peu pris en compte pour que l'enfant puisse mieux s'exprimer. Mais le timide a du mal à s'exprimer. Ça ne veut pas du tout dire qu'il ne pense pas, qu'il ne participe pas à ce qui se passe. Il n'est pas isolé, il est timide. Et il est timide parce que le regard de l'autre, ce qu'il pourrait dire, donc le regard de l'autre et le regard sur soi-même, est un regard qui n'est pas suffisamment assuré pour qu'il puisse exprimer librement, suffisamment librement, ce qu'il pense ou participer à un échange. Et ça a toujours existé. Puis une autre dimension qui est aussi à prendre en compte là, c'est qu'il y a aussi le risque de dépendance. C'est-à-dire, souvent, au fond, le cœur de notre vie est en particulier, pas seulement, occupé par de l'angoisse. L'angoisse du regard de l'autre, l'angoisse de ne pas être à la hauteur, l'angoisse de mal faire, la culpabilité, et que ces angoisses-là sont des angoisses qui sont importantes, évidemment, à essayer de dépasser. Mais il y a une angoisse qui est la plus profonde, probablement, c'est l'angoisse d'abandon. Je vais vous donner un exemple très concret. Nous, on a des garçons, des filles, enfants, adolescents ou adultes, qui sont en thérapie, en psychothérapie avec nous, puis qu'à un moment, tout d'un coup, ils ne viennent plus. Ou ils disent qu'ils ne peuvent plus venir, enfin bon, etc. Et on pensait que c'était parce qu'ils ne voulaient plus être dépendants de nous, ou ils en avaient assez du travail qu'ils faisaient avec nous, qu'on faisait avec eux. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était des garçons ou des filles, quels que soient les âges, c'est vrai aussi pour des adultes, qui, quelque part, avaient peur que le contact avec le thérapeute devienne trop important dans leur vie. Et c'était leur manière de réagir. Mais, à l'inverse, si on ne prenait pas en compte, en effet, ce qui pouvait les motiver consciemment, on ne prenait pas en compte qu'ils avaient aussi toujours peur d'être abandonnés. Parce que c'est l'angoisse la plus profonde, l'angoisse d'abandon. Et que c'est pour ça que maintenant on conseille à tous les thérapeutes de quand un garçon ou une fille ne dit « je ne veux plus venir », écoute, on se revoit au moins une fois, on en parle. Pourquoi ? Parce qu'on a découvert que, au fond, cette angoisse d'abandon, il fallait savoir aussi en prendre la mesure et la dépasser si c'était vraiment de ça qu'il s'agissait.
Alors, docteur Alain Braconnier, vous avez parlé de cette complémentarité croisée qui existe entre la mère et le fils, le père et la fille. Est-ce qu'il est intéressant au niveau thérapeutique de confier un enfant à un thérapeute de sexe opposé ? Est-ce que ça marche mieux ? Je me suis posé la question, est-ce qu'on est plus à l'aise avec une fille avec un garçon et un garçon avec une fille ? Est-ce que ça passe mieux ? Est-ce que vous avez étudié ça ou est-ce que c'est une remarque en l'air que...
Non, pas du tout. Il y a deux positions qui ont été au fil des décennies évoquées. La première position qui était une position strictement psychanalytique, et vous savez, la psychanalyse, elle a aussi fait des erreurs, est allée trop loin dans certains domaines, qui était de dire c'est pas important le sexe du thérapeute, parce que n'importe comment, il y aura ce qu'on appelle nous un transfert sur le thérapeute, de la relation avec le père, avec la mère, et qu'on soit un homme ou une femme, il faut que ces deux transferts aient lieu. Et on s'est rendu compte au fil des années que c'était pas faux, mais que il fallait surtout laisser le choix à l'enfant, l'adolescent, l'adulte, de dire « moi je préfère un homme, moi je préfère une femme ». Puis après on travaillera sur les relations père, fille ou mère, fils, ou on travaillera sur tous les aspects des relations humaines au fond. Mais au départ, il faut d'abord établir un lien. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une alliance thérapeutique avant une alliance de travail. L'alliance thérapeutique, c'est établir un lien, susciter une suffisante empathie, une suffisante création de relations. Et puis après, on travaille sur la relation. Et là, on travaille sur les objets, les types de relations qu'il y a. Et évidemment, dans notre vie, on a tous un père, une mère. Et puis, on se rend compte, moi, j'ai un patient depuis des années qui ne me parlait jamais de sa mère. Il ne parlait que de son père. Et puis, un jour, je lui dis, c'est étonnant, quand même, vous ne parlez jamais de votre mère. Et voilà. Bon, alors, c'était un homme qui était en thérapie avec moi, qui est un homme. Mais j'ai réussi, au bout de tout un temps, à pouvoir lui faire découvrir qu'il y avait quelque chose sans doute de beaucoup plus caché dans sa relation à sa mère. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut être, c'est être authentique. Et alors avec les enfants et les adolescents, c'est capital. Et qu'il n'y a pas à savoir si on est un homme ou une femme, s'il vaut mieux aller voir un homme ou une femme, il faut aller voir quelqu'un avec qui on se sent bien. C'est vrai pour les enfants, les adolescents et les adultes. Et puis après, on va travailler là-dessus. C'est-à-dire sur la question de notre histoire et de ce qui nous a amené à avoir des relations différentes avec notre père ou avec notre mère. Et ça, je crois que c'est un progrès dans ce qui a pu être dit à un moment où ça n'avait aucune importance, que ce soit un homme ou une femme. Si, ça a de l'importance, mais il faut savoir respecter, surtout au départ, ce que le sujet souhaite.
Alors, docteur Alain Braconnier, je voulais atterrir sur une autre, un autre questionnement que j'ai par rapport à la maman qui écoute les vocalises de son bébé. Alors, est-ce que ces vocalises, c'est aléatoire? Il fait ses gammes dans avec ses cordes vocales? Ou bien est-ce qu'il y a un sens sous-jacent? Est-ce qu'il y a eu des études pour voir s'il y a un schéma intentionnel de l'enfant? Est-ce qu'il a, est-ce qu'il voudrait, on ne va pas parler de sémantique, mais est-ce qu'il exprime quelque chose, un sentiment? Est-ce qu'il veut même troubler? Est-ce qu'il questionne l'autre par ses vocalises? Est-ce qu'il y a un sens dans les vocalisations du bébé?
Ça, c'est très intéressant, parce que là, une fois de plus, au cours des décennies, on a découvert combien le bébé, très précocement, avait une relation avec le monde, l'environnement. Et qu'on considérait, jusqu'à il y a encore une cinquantaine d'années, que le bébé, vraiment, c'était un bébé, quoi. C'était un petit animal, quelque part. Et on s'est rendu compte que, au fur et à mesure que le bébé avait non seulement des contacts visuels, mais des manières, et vous parlez des vocalises, c'est tout à fait intéressant, d'exprimer la quête de s'exprimer et la quête de s'exprimer à l'autre. Et que ça, c'est quelque chose qui a été étudié de façon très précise par les psychologues des très 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 jeunes enfants qui ont montré que tout ça avait de l'importance à prendre en compte. Alors, pour ne pas en faire, disons, quelque chose de trop... il vocalise, alors c'est qu'il veut me dire quelque chose, qu'est-ce qu'il veut me dire? Non, faut laisser aussi l'enfant faire ses vocalises tranquillement. Mais il faut aussi se dire que là, il exprime quelque chose et il l'exprime aussi à ceux qui peuvent y être attentifs. Alors, y être attentif, ça ne veut pas dire forcément intervenir. C'est être là et accepter les vocalises. Le bébé, il suce le sein de sa mère, puis après, il le mord. Donc, il a des mouvements contradictoires. Il va jusqu'à ce qui peut, au fond, le plus s'exprimer de sa psyché, de sa vie, en tant qu'humain, à la fois le désir, le plaisir, et l'agressivité et la destructivité. Ça fait partie de l'humain. Il faut l'accepter comme tel. Mais il vaut mieux, évidemment, les vocalises. On peut les entendre, parfois d'ailleurs, on peut les entendre avec l'intuition que vous évoquiez tout à l'heure, comme peut-être une plainte, un appel, ou on peut l'évoquer comme quelque chose qui est un échange qui est en train de se construire.
Donc le bébé identifie quand même son partenaire lorsqu'il vocalise. Vous dites qu'il a l'impression d'une écoute et c'est quelque part un message.
Oui, 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 tout à fait. On peut dire ça comme ça. Alors, c'est un message. Le terme est très important, le mot message. C'est ce qui est entre deux, le message. Mm-hmm. C'est-à-dire, il a l'émetteur et le récepteur. Et puis, il a l'enveloppe. Vous savez, dans le domaine de psychanalyse, on a parlé des enveloppes psychiques. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait passage, le message. Mm-hmm. Et c'est pour ça que l'importance du message est grande, mais il ne faut pas se saisir trop vite du message en l'interprétant trop vite, en y projetant sa propre soit culpabilité, soit insatisfaction, il vocalise tout le temps, ou il m'embête, ou elle m'embête. Bon, il faut essayer d'être à l'écoute une fois de plus, et c'est ça qui est difficile, parce que ça demande du temps, mais il faut avoir déjà à l'esprit que ce que fait le bébé a toujours une part de message. Aujourd'hui, les études l'ont montré.
Donc, la vocalise, on peut dire que c'est une émission phonique qui est quand même intentionnelle par rapport à la maman ou la nounoune ou la personne qui est là et qui... c'est un vecteur.
C'est un vecteur. Pas seulement, c'est aussi une manière d'exprimer des choses. Ça soulage pour le bébé d'avoir des vocalises. Mais c'est aussi un vecteur, un message, et qu'il faut essayer de l'entendre comme tel.
Je vous remercie infiniment, docteur Alain Braconnier, pour ce livre vraiment brillant, passionnant, qui m'a passionné, dont le titre est « Les secrets de votre enfant ». Ça vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Et je rappelle que vous êtes médecin, psychiatre et psychanalyste, spécialiste de l'enfant et de l'adolescent. Merci beaucoup et à une autre fois avec grand plaisir.
C'est moi qui vous remercie beaucoup et avec plaisir aussi pour une autre fois s'il y en a une.
Ah mais j'espère. À bientôt, au revoir.
À bientôt, au revoir.
Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Thank you.